Chapitre 21e. Zina a une idée. En rentrant dans sa nouvelle chambre, celle qu'elle partageait désormais avec Mademoiselle Justine, Vasilissa trouva les écrins de ses nouveaux bijoux rangés sur la table de toilette. La protégée, tout sucre et tout miel, l'aida à reloger les diamants dans leur nid de velours et lui donna la clé d'un petit meuble où elle devait les enfermer. « Que de belles choses vous avez reçues, mademoiselle, » lui dit-elle. « On vous a vraiment fait de jolis cadeaux. Demain, j'ai ordre de madame la comtesse d'aller avec vous au magasin hollandais acheter la toile pour votre trousseau. Vous la choisirez vous-même. » Vasilissa regarda la protégée de ce même air tranquille auquel elle avait déjà accoutumé son visage. « Est-ce que ma tante vous a ordonné de me faire la conversation ?» lui dit-elle de sa voix douce. « Mademoiselle, je ne sais vraiment comment prendre cette question. » La femme de chambre de Vasilissa et une petite fille qui arrangeait la chambre de Justine du temps qu'elle était seule étaient présentes à cette conversation. « Si vous n'avez pas reçu d'ordre contraire, » dit la fiancée en russe, « je vous serai obligée de me parler le moins possible. Votre présence m'est désagréable. On me l'impose, je dois la subir. Mais jusqu'à ce que ma tante m'ait ordonné de me soumettre au supplice de vous entendre, vous trouverez bon que je me dispense de vous écouter. » La petite fille, qui détestait la mamselle dont elle ne recevait que des gronderies, étouffa un grand rire à la façon des servantes russes. Disons, en passant, qu'elle était fille de parents pauvres et que, sous un prétexte quelconque, elle fut mise à la porte 15 jours plus tard. « Vous êtes bien fière, mademoiselle, » répondit Justine en français. « Si c'est votre nouvelle position de fiancée qui vous monte à la tête, vous n'avez pas besoin d'être si hautaine. Votre mariage ne vous donnera ni un nom ni une fortune. C'est là ce que vous avez rêvé, sans doute. Mais Dieu se sert de tous les moyens pour punir les orgueilleux. Celui qui l'a prié est bon, sans doute. « Je vous souhaite le bonsoir, » dit Vasilissa en lui tournant le dos. La protégée continuait ses phrases filandreuses. Une idée d'en haut vint à l'orpheline. Elle se mit à genoux devant les images et resta longtemps prosternée. Justine n'osa pas troubler sa prière et fut obligée de se coucher sans en dire plus long, car Vasilissa ne se releva que vers le matin. Son sommeil fut de peu de durée. La comtesse la fit mander de bonne heure. Justine avait déjà porté plainte contre la pauvre petite fiancée, et il lui fut enjoint de prêter l'oreille à tout ce que la protégée lui dirait. « C'est une personne sage et entendue, » lui dit sa tante. « Elle ne peut vous donner que de bons conseils. Vous me ferez le plaisir de l'écouter, avec le même respect que si c'était moi. De plus, c'est avec elle que vous sortirez désormais. » Lisa courba la tête. À partir de ce jour, elle fut obligée d'entendre le parlage égal et monotone de Justine, qui ne parlait pas vite, mais qui ne s'arrêtait guère. Cette voix douce, écœurante, lui rebattait les oreilles tout le long du jour des perfections de Tchoudessov, des devoirs d'une femme mariée, de la nécessité d'être humble, des vertus chrétiennes, etc., etc., si bien que l'orpheline se sentait quelquefois près de s'évanouir sous la pression continue et graduée de cette machine à torturer. On la traînait dans les magasins, on mettait des étoffes, des dentelles sous ses yeux. Elle ne regardait rien, ne disait rien. On lui essaya des robes, elle se laissa faire. On lui apportait des bonnets, ce rêve des jeunes filles dans un pays où les femmes mariées ont seules le droit d'en porter. Elle se laissa les essayer sans rien dire. On la conduisait devant les glaces pour voir comment elle était jolie. Comme tout cela lui allait bien, elle se regardait, ne souriait pas à son image et se détournait sans mot dire. Tous les jours, en présence de Justine ou de sa tante, Lisa recevait la visite de Tchoudessov. Muette, elle le laissait parler. Il lui apportait des présents, elle les oubliait sur la table, et il fallait les lui envoyer par un domestique. Un jour, il apporta une loge pour les Italiens. Elle se laissa tomber dans l'escalier, se contusionna une articulation et ne put sortir de 8 jours. Le carême était venu. Le jeudi du bal des fiançailles avait été l'avant-dernier de la saison. La gaieté et l'animation de la maison Koumiassine avaient fait place à la plus noire mélancolie. Dimitri, désormais très sage, passait ses soirées avec sa sœur et Miss Junior, qui parlaient de Vasilissa. Le petit garçon, privé à la fois de ses deux amis, avait perdu sa gaieté. De temps à autre, il faisait bien quelques polissonneries, mais son rire, qui ne trouvait plus d'écho, le fatiguait tout de suite. la seule chose qui lui gagnait était de ne plus voir qu'à bâton rompu son ennemie Justine. La comtesse, à vrai dire, n'était pas contente de la manière dont marchaient les choses. Elle craignait que Vasilissa, comme elle l'avait dit, ne fît un esclandre irréparable le jour de son mariage. Heureusement, elle ignorait que l'idée de sa nièce lui avait été soufflée par Madame Goroff. En l'embrassant, celle-ci avait eu le temps de lui murmurer « À l'église, on peut dire non ?» Ces quelques mots avaient fait de Vasilissa une personne toute différente. Elle était sûre de ne pas épouser Tchoudessov. Mais après, 3 semaines seulement les séparaient du jour fatal, lorsqu'un accident survenu dans un des nombreux établissements que protégeait la comtesse força celle-ci à s'absenter pour quelques heures en compagnie de sa fidèle et indispensable protégée. À peine leur voiture avait-elle quitté le perron que Zina franchit l'escalier et bondit chez sa cousine. Depuis 2 mois, les jeunes filles ne s'étaient vues qu'en public. « Et Miss Junior ?» dit Vasilissa dès qu'elle put parler. Elle a fait semblant de lire très attentivement lorsque la voiture est partie. « Je suis sûre qu'elle est bien aise que je sois venue. Tu comprends bien qu'elle le sait, quoique je ne lui en ai rien dit. Que vas-tu faire ?»« À l'église, je dirai non, voilà tout, » répondit Vasilissa, qui, dans les bras de son amie, sentait l'énergie factice qui la soutenait depuis si longtemps faire place à des larmes irrépressibles et à un affaissement complet. « Ma mère ne te le pardonnera jamais, » dit Zina. « C'est mal ce qu'elle fait là. Elle n'a pas le droit de te forcer à te marier. Tu sais, tout le monde le déteste, ton Tchoudessov. Il a l'air d'un sacristain monté en grade. C'est Maritsky qui disait ça l'autre soir chez Sophie Karine, où il y avait la lanterne magique. « Ah, tu as vu Maritsky ?» dit Lisa, dont les joues se colorèrent légèrement. « Oui. On n'a pas dansé, en carême, tu sais, mais on a joué aux petits jeux et on s'est bien amusé. Si tu avais été là, ma pauvre Lisa. Voilà qui fera un gentil mari, ce Maritsky. Tout le monde serait bien aise de l'avoir. » « Toi aussi ?» dit Lisa en souriant. « Oh, moi !» Zina resta songeuse. « Qu'est-ce que tu feras après que tu auras refusé Tchoudessov ? C'est lui qui fera une scène à l'église, comme dans Lucie de la Mort-Mort. Seulement Edgar ne viendra pas, parce qu'il n'y a pas d'Edgar. « Oh !» s'écria-t-elle en bondissant sur ses pieds. « J'ai trouvé !»«
Tu as trouvé ?
Dis-moi ce que c'est, Zina.
Le bonheur de ma vie est dans tes mains. Parle vite !»
Les mains et les lèvres tremblantes de la pauvre enfant se tendirent vers sa cousine avec l'expression de la prière.
« Non, non, ma chérie, je ne puis pas te le dire. C'est impossible, tu ne pourrais pas le permettre, tandis que, toute seule, je puis. »
Elle embrassa étroitement sa cousine. « Je t'ai promis de te protéger, et je te protégerai, » dit-elle en déployant toute la grâce de sa haute stature. Elle était beaucoup plus grande et plus forte que sa cousine, quoiqu'elle fût plus jeune, et véritablement elle avait l'air d'un archange protégeant une martyre dans l'arène. « Est-ce que ce sera long ?» demanda Vasilissa.
« Je n'en sais rien. Je vais commencer aujourd'hui même. Cela ne dépend pas de moi seule, ma chérie, mais je crois que je réussirai.
Et si je ne réussis pas, tu auras toujours la ressource de dire non à l'église. Mais ne crains rien, on te sauvera. » Après bien des caresses, quelques larmes et beaucoup de promesses, les deux cousines se séparèrent de peur de surprise. Vasilissa essaya de reprendre un peu de calme en prévision de la lutte qu'il fallait recommencer à l'heure de la visite de Tchoudessov, et Zina descendit dans sa chambre. Miss Junior la regarda sans rien lui demander. Ses yeux interrogeaient pourtant Zina, qu'il aimait mieux depuis quelque temps en récompense de sa discrétion. « Elle ne va pas mal, dit la jeune comtesse. Ma visite le fait beaucoup de bien. » Tout en parlant, elle fouillait dans son secrétaire où elle prit une enveloppe qu'elle mit discrètement dans sa poche.
« Oh, Miss Zina, si la comtesse savait !»«
Elle ne le saura pas, Miss Junior. Nous ne lui dirons ni l'une ni l'autre, et personne ne m'a vu. » En disant ces mots, elle tira à elle son cahier de copie, en détacha une feuille avec des ciseaux et se mit à griffonner sur la couverture.
« Miss Junior, dit-elle, regardez donc mes derniers dessins. Il me semble qu'ils sont moins bons que ceux de l'été dernier. »
Pendant qu'elle parlait, elle avait été chercher un immense carton qu'elle disposa sur l'appui intérieur de la fenêtre, de façon à ce que l'anglaise lui tournât le dos. Lorsqu'elle la vit absorbée dans les comparaisons, la jeune comtesse écrivit à la hâte, d'une grosse écriture d'écolier, sur la feuille arrachée à son cahier de copie. « On veut marier Vasilissa Goroff malgré elle. Elle se laissera mourir plutôt que d'y consentir. Le fiancé est un misérable. Il s'appelle Tchoudessov.
Venez délivrer la malheureuse, hâtez-vous. » Elle ne signa pas. De la même écriture, elle écrivit sur l'enveloppe timbrée « À son Excellence le prince Chourov, à Chourovo, gouvernement de N. » Puis elle cacheta sa lettre avec un pain à cacheter gommé, représentant un lévrier qu'elle avait pris dans sa boîte à emblème. Lorsque cette grosse besogne fut terminée, « Miss Junior, » dit-elle, « que voulez-vous ? Si nous allions nous promener ?»« Maintenant ? Il est tard. Il faut vous habiller pour dîner. »« Pas encore. Maman n'est pas rentrée. Allons à pied. Ne fût-ce que jusqu'au bout de la rue. » Miss Junior céda. 10 minutes après, elle descendait les marches du perron. « À droite ?» dit l'anglaise. « Au quai de la cour ?»« Non, à gauche, » dit Zina. « Nous verrons venir la voiture de maman si elle rentre avant nous. » 50 pas plus loin se trouvait une boîte aux lettres. D'un mouvement rapide, Zina tira l'enveloppe de sa poche et la jeta dans le gouffre. « Oh, Miss Zina !» dit l'anglaise épouvantée. « À qui écrivez-vous ? » « Pas à un amoureux, soyez tranquille, » dit Zina en riant. Elle avait envie d'embrasser Miss Junior sur les deux joues, de lui tirer la langue, de faire des grimaces aux passants, de tirer sur la queue des chiens errants, de faire enfin tout ce que les bienséances interdisent dans la rue. « Mais Miss Zina, c'est très grave. Si Madame la Comtesse savait. Nous ne lui dirons pas, Miss Junior. À qui avez-vous écrit ?»« Au prince Chourov, pour qu'il vienne sauver ma cousine, puisque vous voulez le savoir. » « Mais si vous me dénoncez, Miss Junior, » ajouta-t-elle en la regardant en face de ses grands yeux mutins et caressants, « je ne vous reverrai de ma vie. Et d'ailleurs, la lettre n'est pas signée. Je dirai que ce n'est pas vrai, je dirai que c'est vous. » L'anglaise grommela pendant plusieurs jours toutes les fois qu'elle se trouva seule avec Zina. « Écoutez, Miss Junior, » dit celle-ci, un beau matin avec un sourire plus malin et plus caressant que jamais. « Si vous m'en parlez encore, » je raconterai comment je m'y suis prise et maman dira que vous n'êtes guère fine pour que j'aie pu écrire ma lettre, la cacheter et la mettre à la poste sous votre nez. » Cet argument irrésistible, aidé de la pitié sincère que l'anglaise éprouvait pour la victime, valut la paix définitive à Zina. Chapitre 22e. Comment le prince Chourov avait passé l'hiver. Depuis ce triste soir de novembre où son beau rêve s'était envolé, le prince Chourov avait mené une vie singulièrement variée. Pendant les 8 premiers jours, il s'était enfermé chez lui, vivant de thé et de confiture, afin de mieux savourer sa douleur. Puis, ce régime débilitant ayant fatigué son estomac sans endormir son chagrin, il avait essayé de se distraire. Pendant 3 mois, ses chevaux harassés l'avaient voituré aux 4 points cardinaux. Il avait rendu des visites qui dataient de 10 ans. Dans sa recherche fébrile de distraction mondaine, il était même allé voir l'archevêque de son diocèse, à 120 verstes de là. Excursion que les propriétaires campagnards considèrent plutôt comme une promenade que comme un voyage. Le prélat lui avait promis de s'arrêter chez lui l'année suivante, en faisant sa tournée épiscopale. Mais telle était la mélancolie de Chourov que cette promesse ne l'avait pas consolé. Voyant que le proche voisinage ne lui offrait pas de ressources sérieuses, il alla s'installer dans la maison qu'il possédait comme pied-à-terre au chef-lieu de son gouvernement. C'était en pleine saison d'hiver. Les bals succédaient les uns aux autres, très brillants et très longs. On y dansait de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Le prince ne manqua pas un bal, arriva le premier et partit le dernier, fit la cour aux plus jolies filles de marchands que l'on put voir, et après avoir fait naître 18 passions au moins dans autant d'inflammables petits cœurs bourgeois, il reconnut un beau jour que là non plus n'était pas l'oubli. Alors il partit pour Moscou. Il y retrouva quelques-uns de ses camarades de régiment, devenus des personnages, parés du grade de général ou des ordres civils les plus étincelants, presque tous pères de jolis garçons vêtus à la russe, en chemise de soie rouge serrée à la ceinture par des galons d'or, ou bien de jolies fillettes en robes décolletées, déjà très sages et fort bien élevées, promettant de faire un jour les plus aimables coquettes du monde. « J'ai trop attendu, » se dit le pauvre vieillard de 32 ans. « J'aurais dû me marier comme eux, il y a 10 années. À présent, je ne suis plus qu'un vieux garçon et je mourrai célibataire. » Pour chasser un peu ses tristes réflexions, il se décida un soir à aller souper dans un cabaret très à la mode parmi la jeunesse de Moscou. On y faisait de la musique. De temps en temps, on y rencontrait une troupe de chanteurs tyroliens ou suédois, mais plus particulièrement bohémiens. Le soir qu'il s'y rendit, Le cabaret était plein. On riait, on parlait très haut, et l'on faisait grand accueil à une troupe nouvelle de tziganes qui débutait ce jour-là. C'était entre deux morceaux. Les chanteurs, mêlés au public de choix, s'étaient dispersés dans la grande salle. Les garçons firent une place au prince, qui, de par son nom et sa fortune, était sûr d'être partout au premier rang, sans métaphore. Les chanteurs et les chanteuses se groupèrent de nouveau, et les voix, diverses de timbres, si bien assouplies et mariées ensemble qu'elles semblaient être une seule voix plutôt qu'un quatuor, entonnèrent une de ces chansons au rythme inégal et onduleux, aux élans soudains, brusquement comprimés, qui donnaient un caractère si passionné à cette musique étrange que l'on ne saurait classer dans aucune école. Ce jour-là, le prince ne s'ennuya pas. Les chants bohémiens l'avaient tiré de l'ornière mélancolique dans laquelle il semblait suivre le char funéraire de sa jeunesse, et le lendemain, il revint. Au bout de quelques jours, l'attrait de nouveautés bizarres qui l'avait séduit perdit tant soit peu de son charme. Il fit alors plus ample connaissance avec la troupe, qui se composait de 4 femmes et de 6 hommes. Les femmes étaient laides, à l'exception du contralto. Celle-ci était une belle fille d'environ 20 ans, au type tzigane fortement accentué, aux yeux noirs et brillants comme du charbon de terre. Ses dents éclairaient son visage quand elle chantait et quand elle souriait. Mais elle n'était pas prodigue de sourire, malgré les amabilités de tout calibre que lui décochaient les jeunes gens à la mode. Son humeur bizarre s'adoucit cependant avec le prince, qui était, il faut le dire, d'une prodigalité insensée. Mais celui-ci se lassa tout à coup et annonça brusquement son départ pour ses terres. « Nous irons chanter chez vous en faisant notre tournée de province, » dit en souriant la jolie tzigane. « C'est une idée, » répondit Chourov enchanté. « Commençons par moi. J'inviterai toute la noblesse des environs. » Au premier jour du dégel, en effet, les bohémiens quittèrent Moscou, et un beau matin, le prince les vit arriver chez lui en 4 chariots, avec cet appareil nomade que ces gens ne peuvent se résoudre à abandonner, même lorsqu'ils sont assez riches pour voyager autrement. Les messagers du prince coururent inviter tous les environs, et le surlendemain, la salle de bal, brillamment éclairée, recevait ceux à qui l'état des chemins avait permis de se mettre en route, c'est-à-dire à peu près tout le monde, car il n'y a guère d'obstacle pour les gens qui s'ennuient. La soirée fut des plus brillantes. La bohémienne avait connaissance de mariages contractés par des femmes de sa caste avec des personnages aussi riches et aussi nobles que son hôte. Elle se surpassa elle-même. Un des voisins de Chourov, le comte K, en fut tellement enthousiasmé qu'il alla jusqu'à dire au prince « Tudieu, mon cher ami, vous avez là une belle créature. Quand vous n'en voudrez plus, dites-lui de venir me voir. » Ce jour-là, Chourov ne s'ennuya pas non plus. Le lendemain matin, pendant que la troupe se régalait dans le pavillon qui lui avait été assigné pour demeure, la belle chanteuse, accompagnée du prince, parcourait toute sa riche maison. Elle allait et venait, regardant tout, touchant à tout, admirant çà et là de jolis objets que le prince lui offrait galamment. Tout à coup, arrivée sur le palier du premier étage, elle mit la main sur le bouton de la chambre bleue. Le prince lui saisit le bras, elle s'arrêta, surprise. « Une chambre à secret ? » dit-elle. « Je veux la voir. »« Non, » dit le prince, « vous ne la verrez pas. »« Et si je le veux ?» dit la tzigane en avançant la main avec un geste d'enfant gâté. Le prince lui tourna le dos et descendit. La clé était dans son secrétaire. Après avoir bien secoué le bouton et essayé vainement de trouver un ressort secret, la chanteuse alla rejoindre son hôte. Elle le trouva qui réglait les honoraires du chef de la troupe. On attelait déjà les chariots, et une heure après, toute la petite caravane, y compris la belle fantasque, avait quitté la demeure de Chourov. Lorsque le dernier chariot eut disparu au bout de l'allée, le prince ouvrit la chambre bleue. Chauffée par un calorifère qui maintenait toute la maison à la même température, toujours prête à recevoir la princesse qui viendrait. Il ferma la porte derrière lui, s'approcha du lit, se mit à genoux, et pleurant comme un enfant, il demanda pardon à Vasilissa. Le carême prêtait aux réflexions sérieuses. Il resta 8 jours sans sortir de chez lui. Le 9e jour, c'était un dimanche, en revenant de la messe, il rencontra le messager qui lui apportait ses lettres de la station de poste voisine. Il pleuvait. La neige fondue était aussi désagréable sous les roues de sa calèche que sous les patins d'un traîneau. C'était un de ces temps humides et froids qui glacent les plus résolus, et Chourov avait grande envie d'être rentré chez lui pour prendre une tasse de thé bien chaud. Après avoir mis à son côté le sac qui renfermait la correspondance, il s'était enveloppé dans sa pelisse et chaudement rencoigné lorsqu'une seconde pensée lui vint. « Qui est-ce qui s'est souvenu de moi ?» se demanda-t-il, et il ouvrit le sac de cuir. La première lettre qui lui tomba sous la main fut celle de Zina. Il regarda l'écriture, tourna et retourna la missive, puis se décida à la décacheter. Il la lut deux fois et resta stupéfait, si stupéfait qu'il fut quelques secondes avant de s'apercevoir que son équipage était arrêté devant son propre perron. Son valet de chambre, en détachant le tablier de la calèche, le rappela au sentiment de la réalité. « Ne dételle pas, » dit-il au cocher, « je repars. » Il monta chez lui, toujours préoccupé, et relut encore une fois la lettre sans signature. « Si c'est une mystification, » se dit-il, « je couperai les oreilles à celui qui l'aura faite, et je le trouverai, quoi qu'il en ait. » Son parti était pris. Il mit dans son portefeuille tout ce qu'il avait d'argent disponible, s'assura des moyens d'en avoir d'autres, fit préparer en un clin d'œil une petite valise, puis, sans manger, descendit lentement l'escalier comme quelqu'un qui réfléchit, se tâta pour voir s'il n'avait rien oublié, et remonta précipitamment. D'un tour de main, il ouvrit la chambre bleue, courut au lit, enfonça sa tête dans les oreillers, baisa fiévreusement la batiste brodée, referma la porte et redescendit aussi vite qu'il était monté. Son valet de chambre, également prêt pour le départ, fit avancer la calèche et quand Chourov s'y fut installé, grimpa sur le siège. « Où faut-il aller, votre Excellence ? » demanda-t-il en se tournant vers son maître. « À Pétersbourg, » répondit celui-ci. Son domestique le regardait sans comprendre. « À la station de poste, » dit le prince, « et vite !» L'équipage partit au galop. Chapitre 23e. Chourov ne perd pas son temps. Chourov n'avait pas contre les chemins de fer les préjugés aristocratiques de sa noble voisine. Il trouva même l'express fort à point, car en arrivant à Moscou, il se fit conduire directement à la gare et n'eut que le temps de sauter dans un wagon. Comme il était très fatigué par la longue traite qu'il venait de fournir, il commença par s'endormir le plus confortablement du monde et ne fit qu'un somme jusqu'à l'heure du dîner. Les exigences de son estomac, aussi bien que le remue-ménage qui l'entourait, le réveillèrent juste à point. Il entra dans la vaste salle du buffet et s'attabla devant un bon repas. Après avoir dépêché vivement les premières bouchées, il défit le col de sa pelisse et releva la tête. « Tiens, » s'écria son vis-à-vis, « Chourov, vous allez à Pétersbourg ?»« Oui, » répondit le prince. « Et vous, Zakariev ?»« Moi j'en viens et j'y retourne. J'ai passé 24 heures à Moscou pour une affaire. Et vous resterez longtemps à Pétersbourg ?» « Je n'en sais absolument rien. Où êtes-vous »« Wagon numéro 549. Avez-vous de la place chez vous ?»« Je suis tout seul. Venez donc dans mon coin, 347, deuxième coupé. »« Avec plaisir. Dès qu'on repartira, j'emménage. Nous ferons une partie de cartes. »« Très bien. » La cloche annonça bientôt le moment du départ. Chacun remonta dans son compartiment, et deux minutes après, grâce au wagon à l'américaine qui rend si commode le parcours entre Pétersbourg et Moscou, Zakariev entra dans le coupé du prince, suivi d'un employé porteur de son menu bagage. Celui-ci dressa la table de jeu qui meuble les salons de première classe, alluma deux bougies et sortira, après avoir promis aux voyageurs qui donnaient de bons pourboires, la solitude complète jusqu'à destination. La partie de cartes s'engagea. Le wagon bien chauffé, les bons cigares, la perspective d'une tasse de thé à la prochaine halte conviait à la conversation. Chourov, qui n'était qu'un peu bête, comme disait Zina, laissa courir son interlocuteur sur tout ce qui lui passa par la tête. Quand il le vit à court, il lui adressa tranquillement la question que, depuis le dîner, il préparait mentalement. « Et la comtesse Koumiassine, ma chère voisine, que devient-elle »« La comtesse ? Mais d'où tombez-vous, mon cher ?»« De chez moi, où je vis comme un loup. Que lui arrive-t-il ? Elle marie sa nièce, la jolie Vassilissa. Avec qui ? Un certain Nicolas Tchoudessov. Est-ce un bon mariage ? Pour qui ? Pour lui ? Je crois bien. Pour elle, non. Entre nous, ce Tchoudessov est un pleutre, un petit rien du tout, qui s'est faufilé dans le monde on ne sait comment. Il doit y avoir des femmes là-dessous. et du diable pourtant si je comprends comment une femme peut avoir eu envie de s'occuper de ce monsieur-là. Enfin, il y a des goûts si étranges. » Jourov se recueillit un moment pour poser la question avec le calme nécessaire. « Et Mademoiselle Gorov, qu'est-ce qu'elle dit de son fiancé ?»« Entre nous, je crois qu'elle a la main un peu forcée. Ma femme et ma fille m'en ont rompu les oreilles pendant 8 jours. Vassilissa Gorov aurait dit, paraît-il, au bal de ses fiançailles, qu'elle déteste son fiancé. « Oh, c'est grave cela. Mais alors, pourquoi l'épouse-t-elle »« Voilà, on ne sait pas. Sa tante le veut. » Pourrait-elle le vouloir jusqu'à la marier malgré elle ? Zakariev haussa les épaules. Il y a tant de manières de marier une jeune fille malgré elle. Il y a la persuasion, les cadeaux, les caresses, les chatteries. Il y a les grands moyens, les menaces, l'intimidation. Mademoiselle Gorov est orpheline. Ce n'est pas sa mère, pauvre femme sans énergie et mieux encore sans fortune, qui pourrait empêcher la comtesse Koumiassine de faire ce qui lui plaît. Où descendez-vous à Pétersbourg ? Le prince indiqua l'hôtel de Mout. « J'aurais peut-être besoin de vous, Zakariev, » dit-il après un silence, « pour des choses graves. Tout à votre service, mon cher. Usez de moi comme il vous plaira. » Les cartes reparurent et la soirée s'acheva très agréablement. Après quelques heures de sommeil, les voyageurs se séparèrent avec promesse de se retrouver bientôt. Le prince, tout en se faisant conduire à l'hôtel, réfléchissait et cherchait, sans les trouver, les motifs qu'avait portés la comtesse Koumiassine. Une femme d'esprit et de cœur, se disait-il, à choisir pour sa nièce un si singulier époux. « Enfin, nous verrons bien ce qu'elle me dira, » pensa-t-il. Vers 3 heures, ayant fait sa toilette et s'étant préparé, par un tour à la perspective, à voir le plus possible de gens de connaissance dans le plus bref espace de temps, il prit une voiture et se rendit chez la comtesse. Elle était chez elle, et le reçut non sans étonnement et même avec une sorte de déplaisir. Il arrivait bien mal à propos, cet ancien prétendant à la main de Vassilissa. « Quel bon vent vous amène ?» lui dit-elle dès le premier mot. « Des affaires de famille, » répondit-il tranquillement. « J'ai appris une nouvelle en route, chère comtesse. Mademoiselle Vassilissa va prendre un époux, à ce que l'on m'a dit. »« C'est vrai, » répondit la tante. « Avant que je vous en félicite, permettez-moi de vous demander si son cœur a parlé. » Vous savez que je suis quelque peu intéressé dans la question. Le cœur des jeunes filles est difficile à pénétrer, cher prince, répondit la comtesse, décidément fort ennuyée du sot personnage qui arrivait si mal à propos. Vassilissa, qui vous avait refusé, on ne sait pourquoi. Pardon, comtesse, m'a-t-elle refusé ? Demanda le prince, qui, pour la première fois, conçut un doute relatif à l'équité du procédé qu'on avait employé à son égard. C'est vous qui devez le savoir, cher prince. Répondit la grande dame avec une sécurité de la meilleure compagnie. « Si vous voulez bien vous rappeler, je n'étais pas présente à votre entretien. » Jourov, toujours pour employer l'expression de Zina, était un peu bête, de sorte qu'il ne trouva pas de réponse immédiate à ce coup de boutoir. « Je dois conclure, reprit-il pourtant avec une certaine insistance, que Mademoiselle Vassilissa aime son prétendu. Aimer ? Le mot est bien romanesque. » Manier sa confiance dans ma tendresse et prendre ma main le mari que j'ai accepté pour elle. » Avec beaucoup d'habileté, la comtesse évita toute autre question directe et laissa tomber les allusions avec cette indomptable persévérance qu'elle mettait au service de ce qu'elle appelait ses principes. Après 30 bonnes minutes d'entretien, Jourov se retira sans avoir été invité à dîner ou à prendre le thé, sans avoir vu Vassilissa, sans avoir obtenu le moindre renseignement. Il descendait l'escalier, très perplexe et assez mécontent de tout le monde, lorsque la porte extérieure s'ouvrit et il entendit la voix de Zina qui disait au valet de pied « À qui est cette voiture ?»« Au prince Jourov, » répondit le domestique. « Miss Junior, » dit la voix de Zina, légèrement altérée, « j'ai laissé de la musique dans la grande salle. Auriez-vous la complaisance ?» L'anglaise, qui ne se souciait aucunement d'être témoin de ce que sa folle élève allait dire ou faire, disparut docilement. Zina, en costume de promenade, parut alors grandie, mûrie, femme déjà par la souffrance et la réflexion, différente en tout de l'enfant moqueuse que Jourov avait quittée à Koumiassine. « Prince, » dit-elle en lui tendant la main, « bonjour, merci d'être venu. » Les domestiques qui l'entouraient comprenaient le français plus ou moins à force de l'avoir entendu parler. Elle hésita un instant. « Merci d'être venu, » répéta-t-elle en regardant Jourov avec insistance. Il comprit sur le champ d'où venait la lettre qu'il avait reçue. « Que fait-elle ? dit-il imprudemment. « Elle n'en mourra, » répondit la jeune fille. « Vous seule pouvez chercher. Au revoir, » ajouta-t-elle en souriant. Elle entendait un bruit suspect, et elle s'élança d'un bond jusqu'au tiers de l'escalier, barrant le passage à Justine qui descendait, et qu'elle força à rebrousser chemin jusqu'au palier plutôt que de lui livrer passage. Pendant ce temps, Chourov avait endossé sa pelisse, et la voiture qu'il avait amenée quittait le perron. Justine, en descendant, ne rencontra que Miss Junior, les bras chargés de gros volumes de musique, déposés depuis longtemps dans la grande salle, par la main prévoyante de son élève. « Est-ce que cela vous amuse de porter ces énormes bagages ? Donnez-les donc au valet de pied, » dit Zina en penchant son frais visage sur la rampe. Ses yeux pétillaient de malice et de joie. Miss Junior, obéissante à l'injonction, déposa son fardeau sur les bras du domestique. Justine, étonnée, ne comprenait rien à ce manège. Un rire étouffé de Zina lui apprit bien qu'on se moquait d'elle, mais elle eut beau chercher, elle ne put en découvrir le pourquoi. Chapitre 24e. Chourov poursuit ses investigations. En quittant la maison Koumiassine, le prince rencontra un drojki de louage qui, fort cahoté sur les morceaux de neige à demi dégelés, venait, à sa rencontre. Il se trouve certainement beaucoup de semblables drojki dans les rues de Pétersbourg, et rien n'est moins extraordinaire que d'en rencontrer un occupé par un monsieur en costume civil, orné de longs favoris et de cheveux très noirs. Cependant, le prince fut frappé par l'air dur et concentré du visage qui passait près de lui. Se penchant hors de la portière, il le suivit des yeux et le vit s'arrêter devant la maison qu'il venait de quitter. « Ce doit être mon Tchoudessov, » pensa le prince, qui devenait étonnamment perspicace depuis que la lettre de la jeune comtesse l'avait brusquement arraché à la tasse de thé qui l'attendait chez lui le dimanche précédent. Changeant d'avis au lieu de retourner à son hôtel, il indiqua à son cocher l'adresse de certain sénateur qui avait été l'un des meilleurs amis de son père. « Là, se dit-il, je saurai à quelle espèce d'homme j'ai affaire. » Il fut reçu à bras ouverts par l'excellent homme, qui, veuf et sans enfant, ne savait où mettre le trop-plein d'un cœur toujours chaud et fait pour la vie de famille. « Que te faut-il que tu viens me voir, polisson ? » dit-il au prince qui l'avait toujours tutoyé. « Permettez. » « Je ne viens pas toujours parce que j'ai besoin de quelque chose. »« Soit, admettons que ce n'est pas toujours pour cela, » dit le brave homme, en riant d'un bon rire qui secoua sa large poitrine et son ventre épanoui. « Je reconnais que tu es venu plus d'une fois pour me faire plaisir, mais aujourd'hui, en particulier, tu ne vas pas me faire croire que tu aies quitté la campagne pour avoir de mes nouvelles. Tu es arrivé ce matin. »« Ce matin, » affirma le prince. « De chez qui viens-tu ? » « De chez la comtesse Koumiassine. Bon, une jolie nièce, une jolie fille, le voisinage de campagne. Tu viens me demander d'être ton père d'honneur à l'église. Tu veux te marier, et ?» Chourov rougit jusqu'aux oreilles inclusivement. Cette malheureuse habitude de rougir avait peut-être été la cause de toutes ses hésitations et de toutes ses mésaventures. « Ah, mon bonhomme !» s'écria le sénateur enchanté. « J'ai deviné juste. Non, mon excellent ami, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » « Je suis venu effectivement vous demander quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous supposez. Je voudrais avoir des renseignements sur un certain Tchoudessov, employé au Sénat. »« Tchoudessov, attends donc. J'ai entendu prononcer son nom ces jours-ci. Je ne le connais pas. »« Eh bien, vous devez avoir un moyen de le connaître, n'est-ce pas, si vous en avez besoin ?»« Certainement. Le chef de la chancellerie du Sénat doit savoir ce qui concerne ses employés. Mais qu'est-ce que tu lui veux à cette espèce d'ecclésiastique ?» C'est une famille de prêtres, ça. Je le suppose, d'après son nom. Tchoudessov signifie des miracles. Mais ce que je veux, c'est savoir quel homme c'est, d'où il vient, ce qu'il fait, de quels moyens il s'est servi pour arriver au grade qu'il a obtenu, tout ce qui concerne sa moralité, bref. Bref, tout, s'écria le sénateur en riant de plus belle. Comme tu y vas, mon garçon, est-ce que tu voudrais épouser sa fille ou courtiser sa femme ? Je voudrais, mon cher ami, dit gravement le prince, que cet homme, s'il n'est pas un intrigant, comme j'ai quelque lieu de le supposer, n'entra pas dans une famille de l'aristocratie et que personne de nous ne fût exposé à saluer un faquin parce qu'on l'a rencontré chez des gens honorables qui l'a trompé. Le sénateur réfléchit un instant. « J'y suis, » dit-il enfin. « C'est à lui que la comtesse Koumiassine marie sa nièce. Eh, dis-moi, est-ce uniquement pour ne pas saluer ce monsieur que tu veux savoir son histoire ? N'y a-t-il pas là-dessous quelque rivalité ? Voyant que les oreilles de Chourov retournaient au ponceau, le brave homme ajouta « Ne me dis rien, je ne te demande pas tes secrets. Le motif que tu me donnes est suffisant. Tu as raison. Le devoir des grandes familles, dont le grand nom immaculé fait partie des fleurons de la couronne de Russie, est de se soutenir entre elles, et de ne pas permettre aux pires aux vulgaires de piller leur moisson. Es-tu pressé ? Je voudrais savoir ce que je vous demande tout de suite, si c'est possible.
Tout de suite, comme tu y vas ?
Non, mon cher, tu ne le sauras pas tout de suite. Si tu veux venir demain, à 1 heure de l'après-midi, je te dirai probablement ce que tu veux savoir. Mais pas 1 minute avant. »
Chourov, enchanté du succès présumé de son entreprise, se confondit en remerciements. Il dîna avec le sénateur et rentra de bonne heure à l'hôtel, où il ne fit qu'un somme jusqu'au lendemain 11 heures, pour réparer le sommeil perdu. À 1 heure précise, il entrait chez le bon vieillard qui, tout en lui montrant un siège, lui cligna de l'œil d'une façon significative. « Si tu l'aimes, ton Tchoudessov, tu vas avoir bien du chagrin. Vos beaux yeux vont pleurer, comme dit la chanson. J'aurai du courage, allez toujours. Eh bien voilà, mon ami, ton protégé. » Ici le vieux sénateur rit silencieusement, faisant aller venir par saccade son joyeux bedon. « Ton protégé est entré au service de très bonne heure. Il avait à peine 22 ans qu'il quitta l'armée pour entrer au Sénat, après 2 années de service militaire. Dans l'infanterie, tu sais, c'est ingrat. C'est une dame qui l'a recommandé. » Le rire joyeux reprit, mais moins long cette fois. « La dame, tu ne tiens pas à savoir son nom ?» Le prince fit un signe négatif. Cette dame était une ancienne amie de couvent de sa mère, mais encore jeune pour son âge et jolie. Elle aimait beaucoup à placer les jeunes gens. Le nombre des employés qu'elle a fournis au service de l'État, le sénateur recommença à rire, est incalculable. Et la couronne lui devrait une récompense civique, s'il y avait quelque justice en ce monde. Comment Tchoudessov a-t-il retrouvé son nom ? De quelle façon a-t-il mérité sa bienveillance ? Le rapport est muet sur ce chapitre. « Veux-tu que nous nous en informions ?» continua le vieux railleur en s'arrêtant court. « Non, merci, » dit le prince, qui ne put s'empêcher de rire. « Je m'en doute. Continuez, je vous en prie. » Eh bien, entré au service à l'âge de 22 ans, il resta dans les bureaux, inconnu, oublié, recevant de temps à autre 100 roubles de gratification pour son assiduité, mais n'avançant point. Soudain, son chef de bureau fut dénoncé pour concussion par lettre anonyme, et le chef de bureau qui lui succéda prit Tchoudessov en amitié et lui procura un avancement rapide. « Tu ne te réjouis pas de sa bonne fortune ?» Le prince partagea le rire communicatif de son interlocuteur. À partir de ce moment, tout réussit à Tchoudessov, car à peine était-il sous-chef qu'on découvrit, par un hasard bien malheureux et dont notre protégé fut longtemps inconsolable, que le chef de bureau entretenait des relations coupables avec la femme d'un général civil, chef de service dans un autre département. Celui-ci se plaignit, il y avait eu scandale, des lettres très détaillées avaient été trouvées par des employés subalternes, on avait glosé, bref. Le chef de bureau fut mis en disponibilité et par an d'ancienneté, Tchoudessov obtint sa place. Il a été décoré de divers ordres, car il ne néglige pas son ancienne protectrice. Dernièrement encore, sachant qu'elle aime les petits chiens, il en a acheté un, ce qui n'est rien, mais il a eu la constance de le porter sous son bras tout le long de la perspective jusqu'au domicile de la dame. Ceux qui l'ont rencontré, il y en a beaucoup, n'ont pas pu faire autrement que d'admirer sa reconnaissance, la mémoire du cœur, comme il l'appelle, pour des services rendus il y a si longtemps. C'est une belle âme. Eh bien, es-tu content ?
Enchanté, dit le prince avec un dégoût manifeste. C'est tout.
Il y a encore le chapitre des mœurs. De ce côté-là, Tchoudessov est inattaquable. Oh, inattaquable. On ne l'a jamais vu dans une maison douteuse ni chez une femme mariée. C'est qu'il a des principes, vois-tu. Il ne fréquente que des veuves, absolument et authentiquement veuves. Voilà tout ce que j'ai pu recueillir à ton attention. Le bouquet est joli, ce me semble.
Mais, dit le prince, si cet homme est tel que vous le dépeignez, comment se fait-il qu'on le garde au service ?
Que tu es bien de ta province ?
Crois-tu que nous n'ayons que des primontions dans nos bureaux ?
Et puis, mon cher, c'est élémentaire. Quand un employé fait exactement son devoir, sa vie privée ne nous regarde pas, à moins qu'il n'y ait scandale. Mais les faits que vous m'avez rapportés relativement à son avancement,
Eh bien, c'est de la vie privée, cela, des suppositions. Il n'y a pas de preuves. Mais sois tranquille, va. Quand nous avons besoin d'un homme de confiance pour une mission personnelle ou délicate, nous savons choisir. Nous consultons alors les documents que j'ai fouillés pour ton usage.
« Je vous remercie infiniment, » dit le prince avec effusion. « C'est une désagréable corvée. »
Eh eh, cela a bien son côté drôle. Quand on est revenu de tout, comme moi, cela dégoûte toujours, mais cela ne me met plus en colère.
« Il ne me reste plus qu'une chose à savoir, » reprit Chourov. « Par quelle voie est-il arrivé jusqu'à la comtesse Koumiassine ?
Est-ce que tu ne peux pas lui demander ?»«
Non, » soupira Chourov, « c'est impossible. »
« Attends, je vais sonner mon valet de chambre. C'est une gazette ambulante, il nous le dira peut-être. »
Piotr fit son entrée. C'était un homme de 55 ans, maigre, menu, l'air sérieux et presque dogmatique. Il resta immobile près de la porte.
« Connais-tu un nommé Tchoudessov, employé au Sénat ?»«
Comment ne pas le connaître? Il va se marier. »
« Tu vois ?» fit le sénateur en clignant de l'œil à l'adresse du prince. « Qui épouse-t-il ?
La pupille de la comtesse Koumiassine.
« Est-ce une jolie demoiselle ?»«
Jolie, » répondit laconiquement le serviteur.
« Qui est-ce qui a présenté le futur dans la maison ?
Je ne sais pas. »
« Chez qui allait-il avant ?»«
Chez Madame Termine, chez Madame Lodginov. »
Le valet de chambre nomma plusieurs dames de la noblesse qui avaient reçu Tchoudessov par condescendance, parce que leur mari avait avec lui des relations de service ou bien comme danseur pour les bals de l'hiver. « Quelqu'une de ces dames connaît-elle la comtesse ?»«
Non. »
dit le serviteur, mais elles connaissent presque toutes Madame Soutsov, qui la connaît.
« Très bien, » dit le sénateur, « tu peux t'en aller. »
Le domestique sortira sans témoigner d'étonnement.
« On n'en fait plus comme ça, » dit mélancoliquement le sénateur quand Piotr eut refermé la porte.
« Quand tu auras mon âge, tu ne trouveras plus à te faire servir. Les vrais domestiques, les bons, ceux que nos pères avaient formés, savaient tout, et non seulement ils ne disaient rien, mais il ne se demandait pas seulement le pourquoi des choses. Sur ce panégyrique des anciens serviteurs, le prince prit congé de son vieil ami. « Me tiendras-tu au courant de tes entreprises ? » dit celui-ci en le quittant.
« Soyez tranquille, » répondit Chourov, « vous entendrez bientôt parler de moi. »